On avait surtout pensé en fait à la question de la foi autour de ces questions de Jésus dans l'angoisse, dans l'agonie aussi bien à Gethsémané avec la question de cette triple prière et puis aussi sur la croix avec « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, je trouve, moi, de la part du Christ. Donc, ça nous permettra de creuser encore cette question de la foi. Et presque dans la Semaine Sainte, donc, on avait choisi avec Jérôme d'aborder ces textes. Alors, c'est vrai que c'est vraiment peut-être des sommets de la question de la foi, puisqu'on voit une distinction qui ne peut pas forcément être évidente pour des chrétiens entre Dieu et Jésus, finalement. Une sorte d'écart entre Jésus et Dieu, dans ces moments terribles qui s'approchent de l'exécution ou pendant même l'exécution. On le voit donc dans cette différence entre « non ma volonté mais la tienne » de Gethsémané. Donc on sent là quelque chose qui est comme un écart entre la volonté du Père et la volonté de Jésus. On voit la recherche d'une amitié humaine aussi, hein, de soutien de ses amis, du soutien de la prière. Et on le voit aussi sur la croix finalement, avec cette interrogation, en tout cas, quelque chose qui est peut-être de l'ordre du doute, finalement. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce que comme si Dieu avait abandonné quelqu'un, encore plus son fils, son Messie ? Donc, quelque part, il y a là quelque chose qui est presque problématique du point de vue de la théologie, et pourtant, c'est encore de la foi, c'est une foi qui dépasse tout. Et donc, voilà, il y a là comme quand même quelque chose qui est vertigineux, un peu, je crois, dans la théologie chrétienne, que d'arriver à ces deux passages, je pense, pour creuser la question de la foi. Donc, comme on avait choisi la foi dans tous les états, là, on a un état qui est particulièrement humain, particulièrement poignant, et je pense qu'il peut parler à chacun d'entre nous, en particulier dans les moments difficiles, les moments de doute, les moments d'hésitation. Et je pense que c'est des grands, grands textes, oui, de l'Évangile.
Oui, sur la question de la foi, bien sûr. Vous savez que le XXe siècle a beaucoup mis l'accent sur le fait que la foi, avant d'être un contenu, est un dynamisme vital, existentiel. Et bien sûr, la foi a un contenu, elle a un visage, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas anonyme. Mais c'est vrai que on entend beaucoup aujourd'hui, aussi bien dans la communauté théologique qu'au plan pastoral, dans les prédications, que la foi, le contenu de la foi est moins dogmatique que narratif, qu'au fond... nous relisons nos propres vies, hein, c'est ce qu'on faisait dans l'Action catholique autrefois, on faisait révision de vie, etc. On essaie, dans l'accompagnement spirituel d'ailleurs, de faire accéder les personnes, j'imagine que c'est la même chose en psychanalyse, d'aider les personnes à faire le récit de leur vie et à y déceler peut-être, dans l'entrelac des événements, la présence de quelqu'un d'autre. Et effectivement, si la foi a une histoire, notre foi a une histoire, finalement, sa structure s'enracine aussi dans un récit de tous les récits, hein, un archi-récit, une sorte de socle narratif. Alors bien sûr, c'est la Bible, hein, qui est le gisement narratif par excellence, mais je pense que les récits de la Passion... ça m'a frappé en relisant, hein, parce qu'on se dit, bon, c'est des textes longs, on les connaît par cœur, on va les réentendre pour les rameaux, pour le Vendredi Saint. Et en le relisant, je me disais que, effectivement, depuis 40 ans, je les connais, et la fascination est intacte, au fond, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est chrétien, quand même. Alors, évidemment, on n'est jamais un bon chrétien, peut-être, mais on est chrétien quand même par toutes les fibres, et pas seulement par la culture, comme on dit, ou en tout cas, il faut prendre évidemment le mot culture dans ce qu'il a de plus noble, parce que ces textes nous habitent, nous structurent, nous impressionnent au sens le plus profond, vont d'ailleurs impressionner des couches très profondes de notre sensibilité, de notre mémoire, de notre affectivité, etc. Et on sait que ces récits, d'ailleurs, étaient autonomes à l'origine. Hein. Avant d'être dans l'Évangile, les passions, les récits de passion, celui de Saint Jean, c'est très clair, étaient des textes... indépendant. Donc c'est devenu même un genre littéraire. comme la parabole est un genre littéraire, comme le récit de miracle, comme les récits d'enfance, hein, le récit de l'Annonciation, qui obéissent à des lois narratives, à des invariants, à des choses, des structures que les spécialistes de narratologie retrouvent d'un texte à l'autre. Eh bien, les passions, c'est la même chose. C'est devenu un genre littéraire, c'est devenu en Occident un genre musical, chez Bach, etc. Ça appartient, ce sont des massifs de notre mémoire collective. Et je pense que c'est bon d'y insister parce qu'en fait, on ne peut pas lire des bouts de passion. Il faut prendre la passion vraiment en bloc et découvrir à quel point ces récits sont presque des livres. Et chacun, d'ailleurs, je me suis amusé, attardé à regarder de près. Chez Marc, par exemple, on a un enchaînement de faits bruts qui témoignent de la réalisation du dessein de Dieu, une réalisation déconcertante, paradoxale, etc. Chez Luc, on voit l'attachement du disciple, on voit à travers le point de vue, la focalisation interne, comme on dit, d'un disciple qui suit amoureusement son Seigneur. Chez Jean, c'est le récit de l'heure de Jésus, de son exaltation, de sa montée, de son élévation en croix, une élévation là aussi inattendue, qui démasque le péché des hommes et qui révèle le vrai visage de Dieu, et l'effusion de l'esprit, puisque c'est sur la croix qu'il remet l'esprit. La vraie Pentecôte, chez Jean, c'est sur la croix, hein. Il remit l'esprit, au sens évidemment le plus fort, c'est déjà la troisième personne de la Trinité. Donc, on a vraiment trois passions très, très différentes, très typées, très, très particularisées. Et chez Luc, chez Matthieu, pardon, que nous avons, c'est pour ça peut-être qu'elle a inspiré aussi admirablement Bach. C'est un récit qui est déjà ecclésial, qui est déjà presque doctrinal, qui s'adresse à une assemblée de croyants, qui est fondée sur de nombreuses références aux Écritures, d'où le psaume 22, bien sûr, sur la croix, etc. Le recours au style apocalyptique, après la mort, on voit le voile du temple qui se déchire, les tombeaux qui s'ouvrent, le sol qui se fend en deux, etc. C'est tout à fait impressionnant et on voit bien que Matthieu s'adresse à une communauté croyante qui est nourrie par les Écritures et qui connaît tous ces genres littéraires et qui les accepte et qui en fait son miel en les intégrant dans ce récit totalement nouveau qui est celui de la Passion. Voilà, donc ça c'est juste pour redire à quel point quand même ce sont des récits fondateurs, quoi. Alors les évangiles le sont, mais au sein des évangiles, les passions ne sont pas construites n'importe comment, ne sont pas rédigées n'importe comment. On sent qu'il y a vraiment tout un travail, une élaboration stylistique et narrative.
Et oui, alors ça, c'est bien intéressant de dire que la foi n'est pas... n'est pas avant tout dogmatique, parce que c'est vrai que c'est pas le même mot, de toute façon, en grec, c'est pas un verbe de connaissance, la pistis, c'est un verbe de confiance, de relation. Et donc, oui, c'est pas d'abord un contenu, c'est ensuite le contenu, c'est à nous à l'élaborer en conséquence, dans un sens. En conséquence et aussi en amont, au sens où vivant ou découvrant peut-être dans ce récit quelque chose qui est de l'ordre d'une façon d'être, d'une rencontre de Dieu avec le Christ, avec Jésus, de Jésus avec les apôtres, les disciples, avec ce centurion qui, justement, fait un pas incroyable dans la foi à l'occasion de la croix. Bon, à travers cela, on peut découvrir quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de la confiance, et puis nous-mêmes entrer dans cette confiance et nous laisser... ressuscité, parce que le premier mort qui sort du tombeau, c'est quand même le centurion qui sort de son tombeau, si je puis dire, de un tombeau de violence, de paganisme, vivant cet événement, il sort de son tombeau et il confesse Jésus comme fils de Dieu. Et donc, si vous voulez, c'est à travers cette foi-là que l'on voit en acte dans ces récits, on peut dire quelque chose peut-être de qui est Dieu, comme tu le disais. Donc à ce moment-là, tout d'un coup, essayer de l'élaborer dans un contenu théologique. Mais ce n'est pas là le cœur de la foi, à mon avis. C'est pour essayer de comprendre, essayer d'avancer nous-mêmes, et puis peut-être aussi pour en être témoin, c'est-à-dire pour en parler, pour en discuter entre nous. Et donc là, il y a besoin des mots et de l'élaboration. Mais c'est plus, comment dire, un témoignage sur la foi que la foi, à mon avis, la théologie, le contenu, la croyance. C'est pas du tout pour dévaloriser, mais c'est pas sans rapport avec la foi, mais c'est pas la foi. C'est pas le même verbe, c'est pas le même mot. La pistis, c'est... ou l'hébreu, c'est...
Emouna.
C'est emouna, et donc c'est vraiment de l'ordre de la fidélité, si vous voulez. C'est de l'ordre de la fidélité, donc d'une qualité de relation. Emouna, c'est pas d'abord la vérité, c'est d'abord la fidélité. Alors, deuxième chose, peut-être qu'en t'écoutant, la Pâque, ça commence comme ça, notre chapitre. Dans deux jours, c'est la Pâque. Mais c'est un peu à double sens. Parce que, justement, d'inscrire, à mon avis, ça peut très bien être historique. Bon, et encore, que sais-je, si vous voulez, qu'est-ce qu'on en sait ? En tout cas, théologiquement, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire de dire que ces événements se passent, ou sont relus en tout cas, comme en rapport avec la Pâque juive, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage, et ça on l'a dans beaucoup de textes, si vous voulez, surtout d'ailleurs dans l'apôtre Paul, qui va vraiment élaborer cela, si vous voulez, le parallèle entre la Pâque juive et puis ce qui se passe autour de la mort et de la résurrection du Christ, et de la résurrection des apôtres, j'allais dire, qui tout d'un coup explose de vie et de foi, d'enthousiasme. Cela s'est relu comme une Pâque nouvelle, en fait. C'est-à-dire comme une libération de la mort et de l'esclavage, une sorte de traversée peut-être de la mer Rouge, qui a été relue par bien des apôtres comme étant une traversée du baptême, préfigurant le baptême de purification. Cette marche dans le désert pour arriver dans une vie éternelle qui est maintenant, aujourd'hui et maintenant. Vous voyez, donc le fait que ça s'inscrive sur la fête de Pâques, c'est quand même extrêmement signifiant aussi sur un salut qui est en acte et qui est à vivre maintenant dans ce monde-ci, si vous voulez, pour une transformation. Et la foi, c'est ça, finalement, peut-être. C'est cette mise en route, c'est cette... comme tu disais, cette rencontre, oui, c'est quelque chose, c'est pas du contenu, ça, vous comprenez, c'est du miracle, hein, c'est une résurrection, c'est une étincelle de vie, c'est quelque chose comme ça. Début d'un cheminement.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je vais peut-être te forcer à développer un petit peu, de même qu'on avait vu dans les évangiles de l'enfance que la localisation à Bethléem est une localisation symbolique, un espace évidemment qui est lié à la naissance du Messie et donc qui met l'accent sur le dévoilement de l'identité réelle de Jésus, sa messianité, etc. Donc tu irais jusqu'à dire que peut-être la situation temporelle de la mort de Jésus a été mise en relation pour des raisons théologiques avec la Pâque, sans qu'on ait de certitude historique sur la concomitance. Et...
Oui, moi j'irais... Ça, on ne pourra jamais savoir, à
tout
mon
à
avis.
Fait, tout à fait.
Mais, et à la limite, qu'importe. Et moi, je pense que c'est assez vraisemblable, si vous voulez. C'est assez vraisemblable, parce que connaissant le ministère de Jésus, sa façon d'être, qu'il se rende présent, on en voit les débats, si vous voulez, dans les évangiles, ses frères qui lui disent, mais alors, puisque tu veux faire le malin, là, il y a la grande fête, il y a tout le monde est là à Jérusalem, c'est le moment ou jamais d'aller raconter tes salades. Les frères n'avaient pas l'air extrêmement convaincus à ce moment-là. Jésus leur dit un peu, bon, écoutez, c'est à moi de savoir ce que j'ai à faire et un peu le temps et les moments. Quand même, il y va. Si vous voulez, c'est vraisemblable que ce moment de la grande fête soit un moment particulier où Jésus se soit manifesté pour faire quelque chose, etc., et que ça soit à ce moment-là qu'il soit fait arrêter, crucifié. C'est assez vraisemblable, mais... Je dirais, l'important, ce n'est pas là avant tout, en tout cas pour nous, pour l'anecdote, ce qui nous concerne. Ouais. Ce n'est pas l'anecdote, si vous voulez, que ça soit passé là à Pâques ou à la Trinité, si je puis dire, ou à Yom Kippour, ou à je ne sais pas quoi, ou à Sukkot, ou je ne sais quelle importance, si vous voulez, quelle importance. Sauf que là, au niveau théologique, c'est fondamental. C'est fondamental parce que la relecture a été immédiate, massive, importante, et du coup donne une épaisseur formidable, si vous voulez, à ce salut en Jésus-Christ. Et ça explique justement que le contenu de la foi, ça soit quelque chose qui est de l'ordre d'une libération intérieure, spirituelle, religieuse, théologique, une libération de la personne, une mise en route de la personne. Si vous voyez, c'est quelque chose comme une quelque chose à vivre. Si vous voyez, c'est pas quelque chose qui est seulement à penser. C'est à vivre par tout l'être dans un cheminement. Bon, c'est ce que dit, puisque tu reprends Jean, effectivement, c'est ce que dit Jean quand il dit, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est clair que Pâques, c'est ça, si vous voulez. C'est une mise en cheminement. C'est une vérité, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport profond avec la relation vraie avec Dieu, si vous voulez, une relation fidèle, une relation authentique avec Dieu, je dirais. Et la vie, oui, c'est-à-dire une victoire sur la mort, au-delà de la survie du corps, en tout cas, mais au-delà aussi de la mort existentielle, et mort spirituelle, mort en espérance, si vous voulez, de la désespérance à l'espérance, le désespoir à l'espérance. Donc je crois que c'est ça qui est en cause, si vous voulez, dans cette histoire de la Pâque, et que c'est, du coup, ça donne une vraie épaisseur. Et c'est en ce sens qu'il accomplit les Écritures. On le voit sans arrêt, il accomplit les Écritures. Il accomplit, oui et non, si vous voulez. Quand on cherche quel verset il accomplirait en particulier en disant qu'il faut qu'il boive du vinaigre ou je ne sais pas quoi, bon, il y a peut-être un bout de psaume, d'accord, mais bon.
Et j'ai envie de dire, pour prolonger ce que tu dis, que Jésus lui-même est le premier, au fond, à nous mettre à l'aise et à nous libérer de toutes ces acrobaties qu'on fait pour l'acrobatie exégétique, hein, pour savoir si le repas, la dernière scène, est le céder pascal. Alors on s'étonne que ce soit le jeudi, etc. Et puis chez certains, c'est au moment de la parasève, c'est-à-dire de la préparation du Shabbat. Et est-ce que c'était en l'an 30 ou 33, parce que le Shabbat tombait le jour de Pessah? Et c'est vrai que Jésus, au fond, par sa liberté souveraine, en instituant autre chose et en faisant d'un repas son repas pascal, en dehors même de la chronologie liturgique juive, au fond, lui-même déjà, c'est presque un clin d'œil, il nous libère du concordisme, oui, et des tentations de faire coïncider, concorder Pessah avec la Pâque chrétienne et de faire coïncider les symboles exactement terme à terme, avec le sacrifice au temple de l'agneau au moment où Jésus est en croix, etc. Donc voilà, je pense que c'est important parce que, bon, peu de gens quand même insistent sur ces phénomènes-là. Or, c'est relire le mystère pascal à la lumière des Écritures et découvrir alors qui est Jésus et découvrir et faire l'expérience qu'ont fait ses compagnons, c'est-à-dire qui étaient des gens comme nous, enfin, avec leurs limites et leur finitude et leurs aberrations et leurs projections et leurs fantasmes et leurs rêves et leurs désillusions. Ces gens-là ont fini par voir en Jésus même la présence du Dieu d'Israël dans l'histoire, au milieu d'eux. Ça, c'est quand même un choc extraordinaire. Et ils ne pouvaient le faire qu'avec tout le trésor des Écritures, des fêtes juives, des symboles, des rites et du temple, etc. Mais en montrant que la liberté de Jésus est une liberté qui rend le temple caduc, qui rend les sacrifices caduques, qui rend la loi caduque. Et c'est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait pour les textes ?
On attaque peut-être
À partir de
36, je ne sais pas, de Gethsémané, ou alors est-ce qu'on dit un petit mot peut-être de
la femme.
Quoi ?
De la femme qui... Ah non, parce que tu n'as pas mis cet extrait. Ah si,
si.
C'est Marie.
Ah oui, l'onction des pieds. Ah, oui, oui. Oui, oui. Marie de Béthanie.
Il fascine des bérules, ce texte.
Ça, c'est un très, très beau texte, oui, de ce début avec... Marie de Béthanie qui oint les pieds de Jésus, c'est vrai que c'est un très beau texte, moi, que j'aime beaucoup, si vous voulez, parce que c'est vrai que Cette femme, vous voyez, partout dans l'Évangile, dans le monde entier, quand on proclamera l'Évangile, on se souviendra d'elle aussi. Donc finalement, il y a deux personnes indispensables dans le témoignage de l'Évangile. Il y a Jésus-Christ quand même, et il y a cette femme-là, si vous voulez. Et je trouve que c'est assez beau, parce qu'en fait, c'est vrai que son opération est très discutable, si vous voulez, de dépenser... combien 300 deniers, disent d'autres évangiles, c'est-à-dire...
30 cycles, en fait. C'était le prix d'un esclave dans la Torah.
Puis 300 deniers, c'est 300 jours de travail d'un ouvrier. C'est, si vous voulez, ça fait quand même beaucoup, en fait. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait énormément d'argent. Donc, je comprends, si vous voulez, la critique. En même temps, Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi est-ce que vous la tracassez, hein? C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est dans le jugement de l'autre. Voilà. Donc non, je crois. Et puis bon, il y a l'idée, si vous voulez, aussi qu'elle a parfumé son corps. Et donc, je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans cette histoire, car elle fait sentir que la vie biologique, le corps de Jésus-Christ, est aussi quelque chose qui est important et qui mérite un grand soin, pas simplement la foi, justement. Que nous sommes un être aussi de corps et de vie, et que quand il perd sa vie, c'est pas un suicide comme Socrate, si vous voulez, qui dit, de toute façon, je suis libéré de mon corps, et finalement, c'est un bon débarras, parce que la vie en ce monde est quelque chose qui est pesant, qui est douloureux. Avec ce jeu de mots, hein, le corps, soma, est une prison, sema, si vous voulez, et donc il va en chantant, il boit sa ciguë, finalement, un peu, j'exagère un peu, mais quand même. Alors que Jésus, pas du tout, si vous voulez, et ça, on le voit, Jésus va à la mort en pleurant, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est absolument pas ni sa volonté, ni son projet. Eh bien, la femme rappelle ça, si vous voulez, elle rappelle la beauté, le prix infini, finalement, que notre vie, notre corps a en ce monde. Et ça, je crois que c'est important. Pour que le sacrifice du Christ ne passe pas pour un mépris du corps ou de la vie, mais au contraire, révèle le prix infini du spirituel et du prix que notre vie a aux yeux de Dieu, si vous voulez. Au contraire. Et bien, c'est cette femme qui le rappelle, dans un certain sens, cela, plus que peut ne le faire... la suite des événements, peut-être.
Oui, et Joseph d'Arimathie dépensera aussi beaucoup. Et il y a en plus un peu d'ironie juive dans ce passage, parce que dans le judaïsme rabbinique de l'époque, vous savez, il fallait faire des mitzvahs, des mitzvot. Hein,
des bonnes œuvres.
Des bonnes œuvres, des béas de scout, hein, bonnes actions. Donc, parmi les mitzvot qu'il était important de faire, il y avait bien sûr l'aumône, mais on considérait toujours qu'il y avait une hiérarchie dans les mitzvot et que l'ensevelissement des morts était plus important que l'aumône. Donc ici, ça peut expliquer la raison pour laquelle finalement Jésus prend ses disciples un petit peu en faux, en leur montrant qu'ils ont tort de récriminer contre cette femme, parce qu'au fond elle anticipe effectivement son ensevelissement et que donc sa mitzvah est supérieure à celle qu'il pourrait faire, à savoir l'aumône auprès des pauvres. Donc vous voyez, quand je dis que la Passion selon saint Matthieu s'adresse à un auditoire de culture juive, etc., là c'est typique, c'est que évidemment un juif tout de suite comprend que Jésus fait de l'ironie et prend en défaut ses disciples en leur montrant justement qu'entre deux mitzvot, il y en a une qui est supérieure à l'autre. Bon, c'est un peu anecdotique, si vous voulez, mais c'est typique de l'éveil avec lequel on doit aborder ces textes. Hein, parce qu'on les lit de façon lisse, alors qu'en fait, ils ont toute une épaisseur sémantique qui souvent nous échappe, parce que c'est lié à la culture, bien sûr, du temps.
Alors ensuite, il y a peut-être les personnages des apôtres, donc avec Judas qui cherche à livrer Jésus, une occasion favorable pour le livrer. Alors vous connaissez peut-être le jeu de mots qu'il y a derrière le verbe « livrer », c'est comme en français, on peut livrer un message ou on peut trahir quelqu'un. Ce mot est à double sens, en grec aussi en fait. Et donc, une des questions qui est assez débattue finalement entre les différents évangiles, c'est de savoir est-ce que Judas a trahi ou non, en fait. L'évangile selon Luc explicitement dit que Judas, le diable, entre dans Judas. Et donc il se déconvertit, si vous voulez. Il passe, il était au contraire au début peut-être dans une bonne dynamique, devenant apôtre, c'est-à-dire vraiment, et puis ensuite il se déconvertit, devient diabolique, c'est-à-dire va déconstruire au lieu de construire. Mais dans un texte comme celui de Matthieu, ce n'est pas du tout évident, si vous voulez, parce que on pourrait voir là, chercher une occasion favorable pour transmettre le Christ, si vous voulez. Ça peut tout à fait être traduit comme ça, et peut-être qu'il y a là ambiguïté, c'est-à-dire peut-être qu'il a pu penser... Alors ça, puisque je parlais de historicité, pas historicité, à mon avis, franchement, l'idée qu'un des 12 des plus proches, choisi par Jésus lui-même, le trahisse, l'idée que tout le monde, tous les autres se débinent, partent en courant, ça, c'est pas inventé, si vous voulez. Au contraire, c'est une pierre d'achoppement terrible, une écharde terrible dans l'Église naissante, au moment où il rédige ses textes, que les champions... qui sont les colonnes de l'Église, si vous voulez, quand ces textes sont en train d'être écrits, d'être, quand l'Église se constitue dans les premiers... Voilà. Quand même, tous les premiers témoins, les grands témoins, ceux que Jésus a formés, ont été loin de la foi, puisqu'ils étaient loin de la fidélité, de relations, d'engagement, etc. Ils étaient loin de la foi, ils étaient tout le contraire. Ils ont trahi, vendu leur maître, abandonné au moment crucial... Ça, à mon avis, c'est de l'histoire brute, factuelle, devant lequel le texte est obligé de donner une réponse. Voilà. Il ne peut pas faire l'impasse de ce fait connu de tous, scandaleux, rapporté d'ailleurs dans le Talmud, on le voit, expliqué là, exactement comme ça, en fait. Les disciples, tout le monde se débine, etc. Le Sanhédrin envoie des crieurs sur les villes disant « mais... est-ce que quelqu'un peut prendre la défense de cet homme, Jésus de Nazareth, qui trouble Israël et fait de la sorcellerie sur des guérisons, machin, et il n'y a personne qui se présente pour prendre sa défense. Ça ressemble furieusement, si vous voulez, à ce qu'on voit dans les évangiles. C'est donc, à mon avis, un fait. Et donc, il y a une des lectures, une des interprétations, c'est de dire que Judas, le pire d'entre eux, finalement... a trahi pour gagner 30 deniers. Et l'autre hypothèse, c'est de dire, au contraire, qu'il s'est dit, mais en fait, c'est le Messie, je vais l'apporter, le mettre, le présenter au Sanhédrin, forcément, puisque c'est des Sanhédrins qu'ils ont été élus par le peuple comme autorité du temple, de l'église, je vais dire, de la synagogue, enfin, du judaïsme, forcément, ils vont le reconnaître comme Messie, et ça va basculer... Tout Israël va être convaincu que c'est le Messie et donc ça va être gagné. Et puis peut-être que quand il voit que ça ne marche pas comme ça, eh bien il va être pris d'un désespoir terrible. On ne sait pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais j'allais dire, les deux leçons sont intéressantes pour nous. Parce que de ce fait de base, avec les disciples, les apôtres qui trahissent, les évangiles font une prédication qui s'adresse à nous, en particulier avec Judas, en se posant la question, est-ce qu'effectivement, pour gagner de l'argent, pour le matérialisme, on est prêt à abandonner la foi, la renier, la piétiner, faire de la compromission dans notre existence? Ou bien est-ce que nous sommes prêts, finalement, à prendre ce risque du témoignage et que ça se passe finalement mal? Je ne sais pas. Alors, les autres apôtres, ça pose des questions aussi. Vous voyez, là, c'est Pierre qui est mis en avant, avec cette certitude, même si tout le monde, même si je devais mourir, même si tout le monde t'abandonnait, mon Jésus, moi, je tiendrai bon, je n'abandonnerai pas. Et donc, il y a une fidélité du cœur, mais une faiblesse de l'homme, si vous voulez. Là aussi, c'est quelque chose qui nous le rend sympathique, si vous voulez, ce Pierre, parce que, bon, cette sûreté de soi, si vous voulez, qui est une écharde véritable, hein, bien sûr, parce que tellement il est sûr de lui qu'il ne va pas s'appuyer sur, peut-être assez sur Dieu pour tenir bon, je ne sais pas. Mais les autres non plus ne tiennent pas, donc ce n'est pas forcément péjoratif. Hein.
La figure de Judas, d'ailleurs, chez Matthieu, est assez impressionnante. Hein, c'est au verset On a 27, mais
47,
c'est...
là-haut.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Mais...
Ça, c'est chapitre 27.
Hein. Ah oui, bien sûr, oui, c'est chapitre 27, donc dans la deuxième page, verset 3. Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné. Donc on voit bien, et j'ai regardé d'ailleurs plusieurs traductions, il est présenté comme un homme dépassé, hein, dépassé par les événements, dépassé par la situation qu'il a plus ou moins créée, alors que, bon, il est présenté ici comme instrumentalisé par des groupes religieux, en fait, donc plus ou moins manipulé, avec son consentement, mais on sent, et c'est assez touchant dans la manière dont Matthieu le présente. Ça veut dire donc la communauté judéo-chrétienne qui est derrière Matthieu, hein, le présente encore, donc 30 ans après les événements, puisque c'est à peu près l'époque de la rédaction, comme un homme dépassé et qui se suicide, ce qui n'est pas rien. Un juif ne se suicide pas, hein, la vie est sacrée, donc il y a quelque chose là quand même. On imagine un homme relativement jeune qui avait fondé des espoirs peut-être effectivement politiques, hein, ou on ne saura jamais vraiment, mais il n'y a pas de charge contre Judas, et l'image ou la contre-image d'Épinal qui en a été gardée dans la tradition iconographique, etc., comme le traître, le Iago, enfin celui qui poignarde dans le dos, enfin on est très très éloigné de ça. C'est ici un homme qui est broyé par une mécanique socio-religieuse, politico-religieuse.
Mais c'est peut-être plus Luc où il y a ça, voilà, le traître, en fait. Mais là, comme tu dis, ce passage-là, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords. Donc, en fait, il ne pensait pas qu'il serait condamné. Donc, il penserait qu'au contraire, le Sanhédrin dirait « Mais c'est génial, voilà, le Messie », et qu'il le reconnaîtrait. Et donc, le Sanhédrin se retournerait comme une crêpe. Bon, et se disant « Ben non, c'est pas ce qui arrive ». Et il est pris de surprise, c'est-à-dire que normalement, le champion de la foi, le champion de Dieu, forcément sera reconnu par les autorités choisies par Dieu lui-même, en fait. C'était un peu l'idée, je pense, du truc. Dans la version de Matthieu, qui n'est pas du tout la même, sur ce coup, que celle de Luc.
On peut lire les deux procès, peut-être, le procès juif et le procès romain. Ou plutôt
Gethsémané, non ?
Gethsémané, d'abord, alors.
Parce que c'est vrai que là, sur la foi, si on réfléchit sur la foi, quand même, sur cette... Ce passage, c'est quand même assez fort, peut-être. On le lit ou qui c'est qui pourrait
donc,
nous le lire ?
Chapitre 26, verset 36.
36, jusqu'à quand ? J'ai de ces manées, bon, jouez sous.
Anne, si vous voulez bien. Merci beaucoup.
Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. » En menant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste pour mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » En allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. » Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. De nouveau, pour la deuxième fois, il s'éloigna et pria, disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise. » Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les laissa. Il s'éloigna de nouveau, et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il vient vers les disciples et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. »
Voilà. Alors, bien sûr, on comprend l'étymologie du mot « agonie », puisque c'est le terme qu'on utilise. Agone, c'est le combat. Bien sûr, ici, c'est pas seulement une agonie clinique, c'est bien un combat. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Et je dirais que c'est une des pages les plus... voilà, c'est au-delà des mots, c'est les plus bouleversantes, parce que Jésus est seul. Une des rares fois où il est présenté absolument comme seul. On sait qu'il va prier seul la nuit sur la montagne, mais on ne le voit jamais. Hein. On n'a pas un vrai narrateur omniscient dans les évangiles. Hein. On a toujours une sorte de témoin qui ne dit pas son nom, qui est issu de la foule, qui est un disciple. Bon. Et ici, quand même, il y a cette solitude et puis ce dialogue très, très impressionnant. Donc, effectivement, oui, le mot d'agonie est tout à fait opportun. Et puis, il y a bien sûr aussi un combat d'interprétation, un conflit des interprétations, comme dirait Ricoeur. C'est-à-dire que, bien sûr, la coupe ne passera pas loin de lui, parce qu'il y a un déterminisme, une machine infernale, un déterminisme tragique, qui est celui de la logique du monde, bien sûr, de la violence, la logique des conflits d'intérêts, des jalousies, ce monde de Jérusalem, hein, qui est le monde des groupes socio-religieux, le monde des lobbies, le monde des groupes de pression, le monde évidemment du prestige aussi, de la force, du pouvoir, des autorités. Tout ça, on sait très bien que c'est une machine infernale et que si on met le doigt là-dedans, l'innocent ne peut être que broyé. Donc il y a une logique qui est liée à la logique mondaine, la logique du monde. Et en même temps, le rédacteur de l'Évangile veut nous montrer aussi que c'est l'accomplissement du dessein du Père. Donc conflit des interprétations, pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus voir dans le Père un Dieu sadique, pervers, qui se plaît à broyer son fils entre les mâchoires d'un Léviathan. Donc voilà, et je dirais que c'est au moment de l'agonie où Jésus formule clairement le don qu'il fait de lui. Ce n'est pas un suicide social, ce n'est pas un suicide par fatigue religieuse. Clairement, ici, il s'agit d'un don. Il donne le sens de sa passion. Que là où le monde va avoir une passion, une passivité, c'est ça la passion, au fond, c'est son action. C'est le drama, le drame. C'est l'accomplissement de l'action suprême. C'est son heure, comme dit saint Jean. Et évidemment, seule la foi peut nous permettre de le dire. Avec lui, parce que c'est lui qui entend donner cette signification-là. C'est lui qui est maître de son destin jusqu'au bout. C'est lui qui entend donner du sens à ce non-sens absolu. On est dans l'absurde, on est dans l'abomination, on est dans ce que la violence a de plus pervers et de plus abominable. Mais Jésus entend donner un sens, et ce sens n'est pas celui que son orgueil d'homme lui dicte. C'est le sens du dessein du Père, du projet éternel du Père. Alors là, vous voyez bien qu'on est sur une ligne extrêmement complexe, parce qu'on peut interpréter ce qui va se passer dans les heures qui suivent de manière extrêmement différente.
Alors déjà... Gethsémani, ça veut dire le lieu du pressoir d'huile. Donc, si vous voyez, dans ce contexte du Christ, qui veut dire finalement le oint d'huile, c'est déjà quelque chose qui, à mon avis, n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que le pressoir, c'est souvent une image du jugement dans la Bible. C'est-à-dire le pressoir de raisin ou le pressoir d'huile. Car effectivement, si vous voulez, on moissonne et puis, par exemple, on vanne le blé et puis ensuite on le passe à la meule et ça donne du pain. C'est une image, si vous voulez, de ce processus donc de jugement, de purification, de tri et puis de fermentation demain pour avoir la vie éternelle. Ça existe aussi pour le raisin ou pour l'olive en fait. C'est plus généralement pour le blé et pour le raisin qu'il y a le jugement est présenté comme ça, comme une vendange, comme une moisson, comme un tri ou bien comme le pressoir, et puis ensuite le levain ou la fermentation qui donne quelque chose qui a un rapport avec la vie éternelle, qui exprime ce salut de Dieu. Voilà. Mais là, donc le pressoir d'huile... C'est parfaitement approprié pour le Christ. C'est-à-dire, voilà, c'est l'endroit où on va prendre l'olive, elle va être broyée pour en tirer l'huile de bénédiction et l'huile de sacre, si vous voulez, l'huile d'onction qui fait de nous aussi des Christ, c'est-à-dire des personnes qui sont ointes de cette huile pour devenir des grands serviteurs de Dieu. C'est aussi là une idée assez importante, je pense, surtout que bon, les rabbins rappellent que l'olive, j'ai jamais essayé, mais une olive crue, c'est amère. Et quand on la presse, elle devient douce. Si il n'y a pas plus doux que de l'huile d'olive dans la bouche, alors que pourtant le fruit est amer. Et donc voilà, c'est à travers le pressoir, on peut en tirer le meilleur, avec toute la richesse du symbolique de l'huile, si vous voulez, qui éclaire, qui remet dans les lampes, qui éclaire, qui nourrit, qui sert à tout, finalement, dans ce contexte, qui donne la vie même, on conserve les sardines dans l'huile. Et donc c'est là-bas, si vous voulez, qu'il se rend pour cette agonie. Et ça, je trouve que c'est particulièrement poignant, si vous voulez. C'est signifiant aussi. Alors, dans ce moment terrible, il cherche quand même à se faire entourer par les disciples. Il prend les disciples. Il leur dit « Restez ici pour aller prier à l'écart ». Mais il en prend quand même trois. Donc, si vous voulez, il y a là peut-être une invitation à s'appuyer et sur la prière et sur ses amis, si vous voulez. Et je crois que c'est une bonne piste quand même. On n'est pas une religion de la foi seule, contrairement à ce que la devise des protestants. Non, c'est pas la foi seule. C'est la foi en Dieu, mais il y a aussi la solidarité humaine. C'est les deux, si vous voulez. C'est cette rencontre entre les deux. Même si la foi est première, d'accord, mais il y a aussi cette dimension de corps du Christ ensemble. Hein. Et là, on la trouve même pour Jésus, finalement. Il a besoin de ses proches et il y aura ses allers et retours, hein, trois fois, entre ses amis les plus proches et puis ce Dieu qu'il a du mal à comprendre à ce moment-là, finalement, dans un sens. Ça, je trouve que c'est quand même assez touchant, quoi, c'est ça, quand même. Hein. Demeurez ici et veillez avec moi. Ça, je trouve que c'est quand même très touchant, et ça, je crois que c'est pour nous que c'est dit. Alors, pour nous aussi, la prière, mais d'ailleurs, ça, c'est le rappel de ce qu'on voit dans Matthieu 6, où la prière est d'abord, avant tout, une prière seul à seul avec Dieu. Ce n'est pas des réunions de prière. Ce qui se touche, oui, c'est vraiment le fond, c'est la prière seul avec Dieu. Mais quand même, il y en a quelques-uns avec qui il veut se sentir proche pour prier en parallèle, dans un sens, se soutenir par l'affection.
Puis c'est l'envers de la transfiguration. C'est quasiment la même scène que la transfiguration. C'est le même trio d'apôtres proches, dans un contexte aussi nocturne, où Pierre rêve de planter une tente pour dormir, etc. Ici, effectivement, il dort, mais évidemment, on est la transfiguration qui anticipait, qui laissait entrevoir quelque chose du destin de Jésus à travers sa Pâque. Jésus, d'ailleurs, annonçant ensuite sa Pâque lorsqu'il redescend de la montagne, évidemment, ici, ça s'accomplit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'euphorie de la transfiguration. On est là dans la déréliction, la tribulation, et c'est là qu'on retrouve l'homme biblique du psaume 22 qu'on va lire, c'est-à-dire l'homme abandonné. Et de fait, là, il est abandonné à la fin. Donc l'abandon, la solitude absolue et la désaffiliation, la décorporéification, je ne sais pas comment dire ça. Certes, il appartient à un corps, mais à un moment, il est nu comme le ver, hein, comme dit le psaume.
Effectivement, il tombe et il prie cette prière quand même. C'était assez étonnant quand même, si vous voulez. Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ça, je trouve que c'est quand même un modèle de prière, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il présente quand même en confiance à Dieu ce qu'il a sur le cœur, son projet, son angoisse, son désir, voilà. Mais au lieu de dire à Dieu « fais-moi un miracle », ce qui serait notre tentation, si vous voulez, il dit « non, ma volonté, mais la tienne ». Alors donc il sent bien qu'il y a tension quand même entre sa volonté et celle de Dieu. Cette incompréhension, finalement, de ce qui lui arrive. Normalement, étant le Messie, ça devrait être un Messie triomphant, normalement. Dans le psaume 1, tout ce qu'il fait réussit. à celui qui est enraciné dans cette présence de Dieu. Normalement, c'est ça. Et donc là, il sent ce hiatus entre le théologiquement correct, normalement, celui qui est juste, tout lui réussit. Voilà. Ça devrait être la justice. Eh ben non. Il y a tout d'un coup un problème. Mais au lieu de dire à Dieu, rentre dans ma façon de voir, il ajoute finalement ce « mais voilà mon projet, mais cela dit, fais ce que tu peux finalement ». Parce qu'il y a marqué « si c'est pas possible que la coupe passe, qu'elle passe, voilà ». Donc il y a aussi peut-être presque l'aveu que Dieu se laisse, Dieu est soumis lui aussi, si vous voulez, à la logique, dans une certaine mesure, à des choses qu'il ne peut pas faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important aussi. C'est très biblique, le Dieu qui se laisse surprendre, le Dieu qui ne maîtrise pas tout. C'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans notre théologie un peu d'enfant, si vous voulez. Le Dieu biblique est moins enfantin que ça. C'est pas le Père Noël, en fait. C'est un Dieu qui travaille dans le monde, mais qui n'est pas un magicien, un Dieu qui ensemence, un Dieu qui se laisse surprendre, un Dieu qui révise ses plans pour essayer de faire avec. Donc c'est cela que Jésus aborde ici. Voilà.
Alors derrière, bien sûr, il y a toute la réflexion d'Israël sur le salut, la théologie de la rétribution. Israël a été, comme toutes les religions du Proche-Orient, adepte d'une théologie de la rétribution en ce monde, à savoir que le juste est béni de Dieu, et puis le méchant ne l'est pas. Alors évidemment, tout dément cette expérience, c'est-à-dire que l'expérience la plus concrète et la plus immédiate que nous avons tous de la vie dit exactement le contraire, ou en tout cas sinon le contraire, en tout cas on voit bien que il y a des méchants qui réussissent ou qui triomphent, et puis il y a des justes qui sont persécutés et même des innocents qui sont des victimes, bien sûr. Donc la théologie de la rétribution ne colle pas. Alors on voit bien tout l'effort de la pensée d'Israël à travers le livre de Job en particulier, mais aussi chez Jérémie. Il y a une découverte que Dieu est présent même dans le malheur, et que je dirais que les psaumes s'en font l'écho sans cesse. Dans les psaumes, on récrimine contre Dieu. C'est pour ça que souvent, je trouve que, vous savez, tous ces chants de louanges qu'on entend aujourd'hui, et qui sont souvent uniquement et unilatéralement du côté de la louange, et qui omettent finalement cet enracinement très, très viril des textes bibliques, dans la plainte, dans l'imprécation, et puis on demande des comptes à Dieu dans les psaumes. Quand on lit les psaumes, on voit bien que l'homme ne se laisse pas faire comme ça, il se débat, il a envie de comprendre, il demande des comptes, et puis bien sûr, à la fin, sa foi l'emporte. Mais je suis toujours très gêné quand j'entends des nouveaux chants, c'est très à la mode aujourd'hui, la pop louange, etc., où on entend des paroles uniquement jubiler, danser pour Dieu, crier votre joie, alléluia, son nom est grand, son nom est saint, etc. Et il n'y a que cet aspect-là. Et ça peut devenir une idéologie, c'est-à-dire que effectivement, ça coupe des racines profondes et du réalisme. Il y a un réalisme biblique. On sait très bien que la vie, c'est pas comme ça, et que la vraie expérience religieuse n'est pas une évasion ou un calmant. Et ça, c'est abominable. Et des groupes religieux qui se sont offusqués l'an dernier du caractère blasphématique d'une pièce de théâtre, d'une pièce de théâtre qui, en plus, ne l'était pas du tout, puisque je l'ai vu, c'était même une pièce qui était chrétienne, mais avec une réflexion très complexe. Ces gens-là ne voient pas que ça peut être blasphématoire de ne pas envisager l'homme dans sa totalité existentielle, qui est fait aussi de doutes, qui est fait aussi de dérédiction, de désespérance, et puis voilà. Et quand on lit les psaumes, sérieusement, on voit très bien qu'il n'y a pas que de la louange. Et il y a sans cesse ce clair-obscur extraordinaire. Peut-être pour ça qu'on va lire
oui,
le psaume 22.
Le 22 est important aussi, oui.
C'est important de... Mmh. Oui.
Oui, juste une question, c'est sur le Fils de l'homme, qui préjuge souvent, entre, il se proclame un Fils de Dieu, mais on voit aussi le Fils de l'homme doit être livré au roi des pécheurs. J'ai déjà eu des explications là-dessus, c'est jamais très clair. On m'avait dit que, quand il dit à la synagogue, quand il dit au grand prêtre, je suis le Fils de l'homme, ça les scandalise bien plus que s'il avait dit je suis le Fils de Dieu. Quelle est la différence et que veut dire Fils de l'homme ?
Tout le monde est fils de Dieu à l'époque, au sens... parce que l'expression fils de Dieu existait, on disait de quelqu'un qui faisait une mitzvah, on dirait tu es vraiment fils de Dieu, etc. Ben Adonai, Ben fils du Seigneur, etc. Alors fils de l'homme, c'est évident, enfin tu vas le dire mieux que moi,
non,
référence...
Le fils de l'homme, le problème c'est que c'est ambigu, si vous voulez. Il y a dans quelques passages des grands prophètes un peu tardifs, l'idée que fils de l'homme c'est le Messie. Mais 9 fois sur 10, dans l'Ancien Testament, fils de l'homme, c'est des Ben Adam, c'est des fils d'Adam, en fait. Hein. C'est des fils des hommes comme vous et moi, des hommes tous dans leur dimension tout à fait terrestre, terrienne, humaine, tout à fait normale. Et donc là, ils ont mis une majuscule à fils de l'homme. Mais c'est ça, c'est de la typographie moderne, parce que dans le grec et dans l'hébreu aussi, il n'y a ni minuscule ni majuscule. Tout est en majuscule, en fait. Il n'y a que des majuscules. Donc, fils de l'homme, c'est ambigu. C'est à la fois le Messie et à la fois l'humain normal, en fait. L'humain normal dans sa dimension terrestre, vivant en ce monde. Et donc là, c'est intéressant, justement, qu'ils prennent ce terme, parce que dans cette ambiguïté même, ce texte parle du Christ, mais il parle aussi de chacun et chacune d'entre nous, et il parle de cette réalité où nous sommes dans ce monde avec un certain nombre de choses qui sont peut-être dures, du tragique aussi, et puis cette force qu'on peut retirer de l'amitié avec ses proches, mais en définitive, on est quand même seul avec sa difficulté, et ça se traite avec Dieu. Et il y a cette tension entre la chair et l'esprit, vous voyez, c'est pas simplement la tension entre le Christ et le monde, ou le Christ et le combat contre la mort, contre le péché, contre les méchants, dont nous faisons tous partie, on le voit avec ces apôtres, qui trahissent, qui se débinent, si vous voulez. Mais il y a aussi le combat entre l'esprit et la chair en nous-mêmes, si vous voulez. Et c'est là que nous sommes fils d'Adam, c'est-à-dire pétris de la poussière du sol, mais qu'à la fin, il rend l'esprit. Et donc, il est bien cet Adam qui est pétri de la poussière du sol, mais qui, en même temps, a reçu l'esprit de Dieu. Et en disant cela de Jésus, c'est aussi dit pour chacun et chacune d'entre nous, vivant cette vie en ce monde où nous sommes en tension, voilà, hein, entre Dieu et notre corps, voilà, notre corps qui s'use, qui souffre, c'est notre corps qui nous mène par le bout du nez, si vous voulez, qui a la trouille, et qui, du coup, nous fait agir, peut-être, voilà, et c'est ce qu'on voit avec Pierre, par exemple, c'est ce qu'on voit même avec Jésus, qui est en tension, si vous voulez, dans tout ce texte, et qui s'appuie et sur ses relations humaines et sa relation à Dieu pour tenir bon. Mais en définitive, c'est quand même... Il dit, voilà, il faut veiller et prier. On peut veiller et prier ensemble, même si la prière reste quelque chose de définitivement intime, solitaire, et doit rester comme cela, si vous voulez. Mais il y a cet aller-retour. Je crois que là, vraiment, il se dit quelque chose d'essentiel, et en anthropologie, c'est-à-dire sur l'homme, et sur le Christ, donc en christologie, et puis sur Dieu aussi, bien sûr, comme on le disait là, je crois que c'est vraiment très passionnant ce que disait Jérôme, c'est... sur cette faiblesse de Dieu, si vous voulez, cette image de Dieu, parce qu'on dit le problème du mal, on ne peut rien en dire, c'est le grand mystère de la foi, ce n'est pas le grand mystère de la foi. Il y a plein d'explications, si vous voulez, à l'existence du mal en ce monde. Il y a la liberté de l'homme, comme tu disais, voilà, il y a la logique du monde, avec ses partis, avec une résistance à ce qu'il remet en cause, ses jalousies, ce pouvoir politique est jaloux, perturbé, par un pouvoir spirituel. Donc il y a la puissance de la liberté de l'homme et le mal qui est dans l'homme, qui nous traverse tous. Bon, c'est une des grandes causes du mal. La deuxième, c'est que Dieu ne peut pas tout, si vous voulez. Que Dieu est puissance d'évolution et de vie, d'une dynamique de vie, mais qu'il reste du chaos en ce monde. Et donc quand un enfant meurt de cancer, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est malgré la volonté de Dieu que chacun vive jusqu'à pas d'âge en pleine santé. Et donc, c'est que Dieu n'a pas pu guérir cet enfant mourant de cancer. Il appelle des médecins à réfléchir, à poursuivre l'œuvre de création. Mais pour l'instant, nous sommes dans un monde qui est en genèse, qui n'est pas encore fini d'être créé. Et donc Dieu continue à agir, à faire évoluer l'univers matériel. Et il nous appelle aussi à participer à cet ensemencement, à cette genèse du monde. Donc le mal a au moins deux grandes causes principales dans ce monde. Le fait que le monde est encore en genèse et que Dieu est plus dynamique d'évolution qu'un magicien qui peut faire tout et n'importe quoi. Deuxième chose, c'est qu'il y a le péché de l'homme. Et donc ici, nous sommes bien face quand même au péché de l'homme, bien sûr, bien entendu. Et c'est ça qui est la cause de la crucifixion, pas la volonté de Dieu qui voudrait massacrer son fils, bien entendu. Et c'est bien là le tragique de cette question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est que il se pose cette question, c'est-à-dire, est-ce que c'est qu'il n'a pas pu, ou est-ce que c'est que Dieu a voulu, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose qui est terrible, parce que il se sent abandonné sur la croix, alors qu'à Gethsémané, il comprend finalement quelque chose, et à la fin, il comprend, si vous voulez, voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, il comprend que finalement, il est face à cette impasse, à ce tragique, et il faut y aller pour accomplir sa mission, si vous voulez. Il ne la met pas sur le dos de la volonté de Dieu, il la met sur le tragique du péché du monde, du péché des humains qui vont le crucifier. Donc là, c'est tout à fait cohérent, si vous voulez, avec des paraboles comme la parabole du vigneron homicide, voilà, où Dieu n'avait pas le projet que le Fils soit tué. Dans l'évangile selon Matthieu, vous relirez cette parabole, Dieu envoie son fils en se disant « ils le respecteront ». Donc le projet de Dieu, c'est que le Christ soit respecté, que le monde en soit convaincu et que le monde entende le message que le Christ a à donner à l'humanité, l'évangile. Et puis, dit cette parabole, ben non, finalement, le fils est tué. Donc c'est contre la volonté de Dieu que le Christ est tué et Dieu va sauver l'humanité malgré finalement l'exécution tragique de son fils. Et pas grâce à, si vous voulez, c'est pas Dieu n'est pas converti par la mort du Christ sur la croix et que tout d'un coup, grâce à ce sacrifice, il pourrait enfin pouvoir pardonner aux humains pécheurs. Ça c'est une théorie qui est à mon avis extrêmement dommageable sur l'idée de la justice, sur l'idée de Dieu, sur la compréhension de ce que c'est que le salut. Non, à mon avis, le Christ manifeste l'amour de Dieu sur la croix, et donc, ben oui, pour manifester cet amour infini, il faut qu'il aille malheureusement jusqu'au bout de cette démonstration en ne resquillant pas, si vous voulez. Voilà, il faut y aller, il y va, pour montrer que l'infini de cet amour de Dieu pour nous, mais Dieu n'avait pas besoin de ça pour aimer ou pardonner à l'humanité, c'est nous qui avons besoin de ça pour enfin percuter, comprendre quel est l'amour dont Dieu nous aime, si vous voulez, en voyant l'amour dont le Christ nous aime. Enfin, je ne sais pas, on peut comprendre ça de différentes façons, mais aujourd'hui, c'est quand même plutôt ça qu'on dirait, je pense, pour comprendre comment marche cette... C'est ce salut qui est donné en Christ sur la croix.
Tout à fait. Et juste techniquement, pour répondre à la question de François, parce qu'effectivement, la lecture traditionnelle qui est faite de ce passage, qui est quand même très solennel, on a vu ça dans des films, je me souviens de Jésus de Nazareth, de Zeffirelli, on voit Anthony Quinn qui déchire ses vêtements, c'est évidemment... Alors, la lecture qui en était faite, elle était très fondamentaliste, mais de fait, c'est la lecture classique. On a l'impression que Caïphe demande à Jésus, puisqu'il lui demande « Es-tu le Fils de Dieu ?» On lui demande, en gros, s'il est Dieu. Et on anticipe sur la théologie du Concile de Nicée ou de Chalcédoine, etc. Et on a l'impression que, du coup, Jésus est condamné parce qu'il s'identifie à Dieu et qu'il dit, en gros, je suis la deuxième personne de la Trinité. Je suis Dieu. Or, ce n'est pas ça. Et effectivement, on peut lire comme ça et voir dans le blasphème l'identification avec Dieu. Et même des théologiens très sérieux le disent. Moi, je ne suis pas certain. Jésus répond avec la figure du Fils de l'homme qui vient de Daniel, du prophète Daniel. Parce que souvent, effectivement, on dit qu'il se présente comme le Christ, ce n'est pas trop un problème, comme le Messie, mais c'est son identification avec Dieu qui pose problème. À vrai dire, ce n'est pas net, parce que le Fils de l'homme, qui est la seule expression qu'utilise Jésus, est une figure messianique assez récente dans la littérature biblique. Donc ça veut dire qu'il s'identifie au Christ, bien sûr, donc ce personnage mystérieux qui vient de Dieu et qui vient pour sceller l'histoire et pour donner le sens apocalyptique à l'histoire. Mais Jésus ne dit pas qu'il est Adonai. Il ne s'identifie pas au Dieu dont le culte est célébré dans le Débir, dans le Kadosh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Bon... bien sûr, on peut faire cette lecture-là, mais pour moi, elle force, elle violente un petit peu le texte.
C'est un anachronisme.
Voilà, le sacrilège vient dans l'aplomb que perçoivent les scribes, les sages, les autorités, les anciens, les gens qui savent, les docteurs de la loi, tout ce monde très... sûrement très bien d'ailleurs, hein, mais qui ne supporte pas de voir cet homme... s'identifier à une figure qui est l'incarnation du désir d'Israël, qui est celui qui a reçu l'onction, etc. Donc, fils de Dieu, ici, c'est pas la deuxième personne de la Trinité.
Et puis, moi, je suis pas si sûr que fils de l'homme, ça soit je suis le Messie. C'est beaucoup plus ambigu que ça.
Oui.
Ça peut vouloir dire comme quand Hollande dit « je veux être un président normal », ça veut dire, finalement, ça veut même pas dire ça. Ça veut dire « je suis un mec normal, en fait ». C'est ambigu, ça veut dire soit je suis un mec normal, comme vous, je veux dire, mais je suis un mec normal comme vous, ou bien ça veut dire je suis le Messie. Mais c'est tout à fait ambigu, si vous voulez, comme je répète, 9 fois sur 10 dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, c'est hyper courant, les psaumes en sont pleins, si vous voulez.
Oui, mais siégeant à la droite du Tout-Puissant, venant sur la nuée, etc., c'est Daniel, c'est une citation, quoi.
Mais là, t'as siégeant, oui, vous verrez, oui. Oui, oui.
Mais venant ça, sur les nuées.
Alors là, oui.
C'est
là,
quand
oui.
même la. Il fait une citation biblique, quoi.
Là, oui. Mais plus haut, quand il dit « fils de l'homme », quand tout le long de son ministère, il dit « fils de l'homme », là, par contre, là, oui, à ce moment-là, je crois qu'il assume de dire « je suis le Messie ». Et d'ailleurs, c'est ça qui lui est reproché, c'est d'être prophète, d'être Messie, c'est-à-dire de dire « le sabbat, maintenant, finalement, ça reste secondaire, je vous donne ». C'est sur des petits points comme ça de détail, à mon avis, qu'il va être crucifié. C'est sur des... sur ce libéralisme, j'allais dire, où il dit, bon, écoutez, oui, le sabbat, c'est très bien, je veux dire, c'est important, mais enfin, si on a mieux à faire ce jour-là, si votre discernement personnel vous dit que c'est mieux d'aller aider quelqu'un pour guérir simplement une main qu'à un ulcère, eh bien, faites-le au nom de votre compassion, au nom de votre foi personnelle, au nom de votre vocation personnelle, c'est plus important que Moïse. Mais en disant ça, si vous voulez, avec ce libéralisme qui centre sur la foi en Dieu, la foi personnelle en Dieu... C'est ça qui est complètement subversif, parce qu'il remet en cause tout l'édifice, et le Sanhédrin avec, et ça, c'était puni de mort, si vous voulez. Se prendre pour le Messie, c'est pas si grave. Même se prendre pour Dieu, il aurait passé pour un fou. Mais remettre en cause le sabbat, ça rigole plus, si vous voulez, parce que c'est tout le système religieux, toute la pyramide, le commandement principal, la loi de Moïse et Moïse avec qui passe à la poubelle, ça rigole moins. Si vous
et d'ailleurs, les attestations, les témoins, les témoignages hein, que l'on fait venir, que ce soit des vrais ou des faux, d'ailleurs, peu importe, mais, c'est de dire il a dit qu'il détruirait le temple, etc. Donc c'est vraiment l'atteinte à l'identité du peuple. Voilà. Bon. Alors évidemment, avec toujours le lien, et ça, Matthieu est sévère, évidemment. Il montre la responsabilité des groupes qui sont aux manettes, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité de conduire le peuple, on va les voir d'ailleurs, qui manipulent le peuple, qui font en sorte de retourner la foule, etc., pour qu'ils demandent la libération de Barabbas. La responsabilité et la culpabilité des autorités juives est mise en... en évidence hein, par le rédacteur ici. Donc, y a quand même l'idée de montrer qu'au fond, ceux qui vont mettre à mort Jésus, ce sont ces groupes. Jésus est la figure solitaire face à... Et c'est peut-être ça le péché originel, d'ailleurs. C'est ces mécanismes qui font que des institutions qui devraient être là, justement, uniquement pour témoigner du Dieu vivant et vrai, qui devraient être là uniquement pour témoigner de l'avènement du monde de Dieu parmi les hommes, c'est précisément ceux-là qui se plantent, qui se trompent, qui trahissent et qui apportent un contre-témoignage. C'est un peu ça qui... Alors, évidemment, ça s'est écrit plusieurs années après, et même plusieurs décennies après, mais peut-être à partir de témoignages, etc. Mais c'est comme nous, quand, 3 jours après un conclave, on essaie de savoir ce qui a pu passer par la tête des cardinaux, et on ne le saura pas, donc on reconstruit. Donc ici, c'est une reconstruction. C'est une séance nocturne du Sanhédrin, c'est plus ou moins secret, plus ou moins privé, etc. Donc, les disciples de Jésus se disent « Voilà comment ça a dû se passer. » Et voilà le chef d'accusation. Mais vous savez très bien que Pilate mettra un autre chef d'accusation, politique, hein, roi des Juifs. Mais ce n'est pas du tout ça. Il y a 2 procès. Il y a un procès religieux et un procès politique. Mais évidemment, après, on essaie de comprendre. En tout cas, sur la croix, ce ne sera pas mis « Fils de Dieu ». Ce sera mis « Roi des Juifs ».
Mais je trouve ça intéressant de parler de la chute, finalement. Mais fils de l'homme, c'est un peu ça aussi, parce que c'est fils d'Adam. Or là, il y a vraiment quelque chose comme un anti, j'allais dire anti-chute. Ça peut passer pour Pétrolane, mais non, c'est anti-chute. C'est-à-dire, c'est le contraire de la chute avec Adam et Ève qui disent, ben, finalement, non, je vais devenir Dieu en faisant à ma propre tête, finalement. C'est-à-dire en prenant mon propre désir, ma propre volonté comme étant le critère du bien, du juste et du bon. Si je fais ça, je vais devenir Dieu, finalement, mon Dieu à moi. Et ça va être génial. Mais là, finalement, Jésus fait le contraire. Et là, enfin, il devient fils, il devient Adam véritable, dans un sens. Il devient l'homme véritable. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans le dialogue dans Jean, je pense. Hein, quand Pilate dit « Voici l'homme », ce qui est extrêmement prophétique. Ben là, effectivement, là, on voit enfin l'Adam véritable. Je disais que le monde était en Genèse. L'Adam, il n'y a pas jamais eu un monsieur Adam, en fait, dans le passé. Pour une fois, il y en a eu un, c'est-à-dire un homme tel que Dieu l'a rêvé, tel que Dieu est en train de le créer, en Jésus de Nazareth. Et nous sommes dans ce sens pré-hominien, comme disait Théodore Monod. C'est-à-dire qu'on n'est pas, fini, si vous voulez. On est le chaînon manquant entre le singe et l'homme, en fait. On est en Genèse, on est appelé, voilà. Et donc, ça nous dit quelque chose de l'homme. Et pour une fois, là, dans Gethsémané, c'est joué, dans ce jardin, c'est joué... C'est jouer le récit de Genèse 3, mais avec une autre fin, finalement, une autre issue. Et pour une fois, je dirais, la nature, la vraie nature de l'homme est révélée. Alors peut-être le psaume.
Oui.
Allez, le psaume.
Justement, comme ça paraîtra fin.
Lisons le psaume, je ne sais pas quelle heure il est là. Ah oui, on a encore un quart d'heure pour lire ce psaume, en pensant au Christ, car c'est vrai qu'on y reconnaît beaucoup dans ce texte. La première partie étant sombre, vous allez voir au milieu le « tu m'as répondu », tout à fait surprenant, et une deuxième partie du psaume qui entre dans la louange. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ça, Bénédicte ?
Ou quelqu'un d'autre ?
Voilà.
Du chef de chœur sur biche de l'aurore.
Oui, c'est sur l'air. Sur l'air du biche de l'aurore. Hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Sur l'air du trait de rideau.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai vu rougir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, et je ne trouve pas le repos. Pourtant tu es le saint. Tu trônes, toi, la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi. Ils comptaient sur toi, et tu les libérais. Ils criaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qui le libère, qui le délivre, puisqu'il l'aime. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a pas d'aide. De nombreux taureaux me cernent, des bêtes du bazar m'encerclent. Ils ouvrent la gueule contre moi, ces lions déchirants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson. La langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entourne. Ils m'ont percé les pieds et les mains. Je peux compter tous mes os. Des anges me voient, des gens me voient, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite. Sauve ma vie de l'épée et ma personne des pattes du chien. Arrache-moi à la gueule du lion et aux cornes des buffles. Tu m'as répondu, je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. Il n'a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. De toi vient ma louange. Dans la grande assemblée, j'accomplis mes vœux devant ceux qui le craignent. Les humbles mangent à satiété. Ils louent le Seigneur, ceux qui cherchent le Seigneur. À vous, longue et heureuse vie. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Ô Seigneur, la royauté, il domine les nations. Tous les heureux de la terre ont mangé, les voici prosternés. Devant sa face se courbent tous les moribonds. Il ne les a pas laissés vivre. Une descendance servira le Seigneur. On parlera de lui à cette génération. Elle viendra proclamer sa justice et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait.
Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, au verset 45. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver ». Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui arrivaient, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Je ne me souviens pas que c'était au pluriel, d'ailleurs. Notez que ce n'est pas le centurion ici qui confesse.
C'est le centurion et les femmes, en fait.
Le centurion et ceux qui gardaient.
Ah, c'est ceux qui.
Oui, j'avais jamais remarqué
oui,
ça.
Oui, oui, et ceux qui gardaient Jésus. Oui, oui. Alors, c'est vrai que moi, je trouve poignant hein, ce Jésus qui, sur la croix, dit : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire que c'est là, peut-être, qu'on voit particulièrement que la foi n'est pas d'abord un contenu, puisque, au point de vue théologique, si vous voulez, Jésus est dans l'erreur. Dieu n'a pas abandonné son Fils. Et pourtant, c'est de la foi, bien entendu. C'est-à-dire qu'il ne sent plus la présence de Dieu, donc il est en panne au point de vue mystique. Et au point de vue théologique, c'est un peu limite aussi, parce qu'il pense que Dieu l'a abandonné, donc il ne comprend pas comment c'est possible. Ça ne correspond pas avec sa théologie de l'amour, de l'accompagnement sans cesse et fidèle de Dieu, que Dieu est fidèle. Et pourtant, si vous voulez, donc en rupture mystique, en rupture théologique, il garde la foi. Oui. Donc la foi n'est pas le contraire de la foi, c'est pas le doute. Le contraire de la foi, ce n'est pas ne pas sentir la présence de Dieu, si vous voulez, être bouleversé de la présence de Dieu dans son existence. On peut ne rien sentir, si vous voulez, sans que ce soit de notre faute ou de notre péché. Mais Jésus a quand même la foi. Et donc la foi, c'est plutôt rechercher, c'est plutôt être en relation, c'est plutôt être dans... être garder le regard tourné vers. Et c'est pour ça, si vous voulez, que assez souvent dans les évangiles, on nous annonce la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, tout ça, mais l'autre grande voie de l'évangile, c'est de se tourner vers Dieu, de se convertir. C'est pas la repentance, c'est pas d'abord morale. Il peut y avoir une dimension morale, mais la conversion, la repentance, qui est traduite par conversion ou repentance, c'est un changement de mentalité où on se tourne vers Dieu. Ben, vous voyez, donc Jésus, en panne mystique, en panne théologique, il garde la foi, c'est-à-dire le regard, la parole, la prière tournée vers ce Dieu auquel il ne croit plus, finalement, dans un sens. Enfin, j'exagère en disant ça, mais qu'il ne sent plus par la prière et qu'il ne sent plus par l'intelligence, par la compréhension. Mais il continue à tourner son regard, et à mon avis, le fond de la foi, c'est ça. Donc c'est pas très grave si on pense un peu des bêtises. Dans justement cette ouverture vers Dieu, ben Dieu va pouvoir y travailler là-dessus, si vous voulez, travailler là-dessus. Si on ne sent pas la présence de Dieu, c'est pas si grave, si vous voulez, puisque ça arrive à David, ça arrive à Jésus, ça peut bien nous arriver à nous sans qu'on soit pécheur. On sent pas la présence de Dieu, ben faisons... dans ce regard tourné vers Dieu, eh bien, attendons-le. Voilà. Donc la foi, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est dans cette dimension-là, ultime, que ça se gît. Ça n'empêche pas la mystique et la théologie, et d'avoir la mystique la plus aboutie possible, la plus apurée possible, un vrai contact par la prière avec Dieu, sentir un dialogue, une présence. Ça n'empêche pas de faire de la théologie, ô combien, mais... c'est plus en amont et en aval, le cœur même de la foi, c'est simplement se tourner vers Dieu. Non ? Enfin, je sais pas.
Tout à fait. Et ce qu'il y a d'assez fantastique, je me le disais en réécoutant le psaume 22, parce que il est probable que Jésus a murmuré l'ensemble du psaume. Il ne s'est pas contenté des premiers mots. Il a prié sur la croix. Et... bien sûr, on se dit que « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lui qui parle, mais en même temps, il s'identifie à l'homme du psaume. Que cet homme soit innocent ou pécheur, la tradition présentait l'auteur des psaumes comme étant David, donc le pécheur pénitent qui a rompu l'alliance avec Dieu. C'est d'ailleurs assez beau parce que ça rejoint au fond... une intuition théologique, Jésus qui s'identifie au pécheur et même au péché, dit saint Paul. Il a été identifié au péché, etc. Donc lui-même donne cette clé de lecture. Et je dirais que alors qu'il vit la rupture suprême dans la déréliction, dans l'abandon, dans le doute, dans peut-être le refus de Dieu, il maintient la relation, parce que le psaume est une prière. Et donc quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», bien sûr, c'est lui qui parle, mais c'est aussi tout Israël avec lui. C'est toute sa tradition religieuse qui est derrière lui, qu'il porte, probablement, puisque vous savez qu'on meurt par asphyxie, donc dans un filet de voix. Et je trouve ça absolument grandiose de se dire que à ce moment-là, qui est le moment de la rupture, le moment de l'abandon, le moment où la foi semble s'obscurcir, eh bien, la relation avec le Père, dans ce filet de voix et ce filet de texte, est maintenue par le psaume, qui est une prière, et il consent à la grande prière d'Israël, hein, qui est ce psaume extraordinaire, et donc la relation... C'est cette foi que tu évoques qui est indicible, qui défie toutes les théologies, tous les systèmes, bien sûr. Mais la relation est maintenue. Mais elle est maintenue pas pour lui. Elle est maintenue, j'ai envie de dire, pour le salut des hommes, pour que le pont puisse se faire entre... Il est le pontife à ce moment-là. Il est celui qui maintient le pont contre toute raison, contre toute lumière possible.
Oui, ça c'est beau. Et puis c'est vrai que tu dis qu'il est effectivement le pécheur pénitent avec David, mais il est aussi le David, c'est-à-dire le bien-aimé. David, ça veut dire le bien-aimé. Et donc c'est aussi cette voix qu'il entend sur la montagne de la transfiguration avec les deux autres. Tu es mon fils bien-aimé, finalement. Et c'est cet amour de Dieu, finalement, qu'il peut entendre à travers ça. Cet amour, il est le bien-aimé de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup le verset 10 et 11. Voilà, « Tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. » Alors, pour vous qui valorisez particulièrement bien Marie, finalement, et c'est vrai que c'est une figure majeure. Après Jésus, le deuxième personnage de l'Évangile, c'est évidemment quand même Marie. Et là, elle n'est pas si clairement à la croix qu'elle peut l'être dans l'Évangile selon Jean. Mais si vous voyez, dans ce psaume, on ne peut pas faire autrement que penser à Jésus qui a cette pensée pour sa mère, bien entendu, sur cette Dieu qui le confie à sa mère. Et puis ensuite, c'est vrai que chacun des versets de ce psaume peut parler de notre souffrance à nous et celle de notre monde. Et là, j'ai bien aimé quand tu disais que c'est pas simplement Jésus, mais c'est Jésus avec l'humanité qu'il épouse aussi. Et puis, le passage à la résurrection, tu m'as répondu et passé ensuite dans la louange. Et donc, je pense effectivement que là, il y a le... Donc, ça commence dans cette faiblesse, mais Dieu répond, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette patience qu'on peut voir à Gethsémané, hein, trois fois, il revient, pour finalement être réconforté. Eh bien, là, il y a ce réconfort qui arrive... et quelque chose qui évoque déjà la résurrection, une résurrection qui, là aussi, historiquement, à mon avis, a lieu, en tout cas dans cette foi des apôtres et de ces femmes qui vont vraiment être extraordinairement dynamisées dans leur amour, dans leur foi, dans cette force de transmettre l'Évangile. Et nous en sommes les bénéficiaires, donc, de ce trajet du psaume 22. Donc peut-être qu'il est temps de se retourner dans nos foyers pour que ceux qui travaillent demain matin soient en pleine forme. Donc prochain rendez-vous, c'est mercredi 17 avril, donc à Saint-Eustache. Reste avec nous car le soir tombe, donc ça sera la suite des événements avec les disciples d'Emmaüs, finalement, dans Luc. Évangile selon Luc au chapitre 24, avec donc l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. Donc merci Jérôme, bien, et merci bon beaucoup. Retour, bonne fête de Pâques à tout Saint-Eustache.
Oui, merci à vous aussi.
Pour cette semaine.
Pascal.